J'ai vu l'Antarctique durant 74 jours. J'ai été immergée au cœur de l'Antarctique. Il n'y a pas une seule journée qui a ressemblé à une autre. Un voyage très court ne peut pas remplacer tout ce que l'on vit quand on passe du temps quelque part, quand on fait l'effort d'atteindre quelque chose.
Bonjour, je suis Thibault Lamarque, le fondateur et président de Castalie, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, je reçois Stéphanie Jiquel. Avocate pendant 10 ans, elle a troqué les cours d'assises pour les paysages blancs de la banquise. À 39 ans, cette exploratrice de l'extrême a réalisé des défis sportifs impressionnants dans les pôles Nord et Sud. Écrivaine, conférencière et engagée auprès de plusieurs associations, Stéphanie donne aujourd'hui toute son énergie pour transmettre ses valeurs, son état d'esprit et sa manière de voir la vie. Salut Stéphanie.
Bonjour Thibault.
Bon, c'est la première fois qu'on fait un épisode à distance, Stéphanie. Tu seras notre cobaye.
D'accord.
Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton enfance? Quelle était la graine qui a germé, en fait, pour donner Stéphanie aujourd'hui? D'où tu viens? Qui es-tu?
Alors, je suis née à Carcassonne et j'ai grandi dans une banlieue de Toulouse. Mon rêve, quand j'étais petite, c'était de voyager. Je ne voyageais pas du tout à cette époque-là. Et je rêvais de découvrir le monde. Pour moi, la découverte, l'aventure, le monde, c'était surtout d'un point de vue géographique. Donc, c'est vraiment le voyage qui m'a attirée, le fait d'aller découvrir ce qu'il y avait au-delà de nos frontières. Et comme je n'ai pas du tout grandi dans un univers de sportifs aventuriers ou de sportifs de haut niveau, le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir aller vers mon rêve, ce sont les études. J'étais plutôt bonne à l'école. Et donc, j'ai utilisé les études comme moyen de devenir autonome, d'entreprendre, d'acquérir les outils qui me permettraient d'inventer ma vie, d'être vraiment indépendante. Et j'ai découvert l'existence des écoles de commerce dans un magazine au CDI. J'étais au collège à cette époque-là. Et là, je me suis dit, waouh, ça a l'air génial. Et donc, j'ai tout mis en œuvre pour faire une école de commerce, parce que les écoles de commerce, la plupart d'entre elles étaient sur Paris. Donc déjà, pour moi, c'était un moyen d'aller sur Paris. Et déjà, Paris me faisait rêver, parce que pour moi, c'était la porte d'entrée vers le monde. Et puis, je me disais que les écoles de commerce étaient tellement... elles semblaient être tellement ouvertes dans ce qu'elles proposaient que cela me permettrait d'acquérir des outils pour ensuite entreprendre et voyager à travers le monde. Et en fait, la Stéphanie enfant, c'est la Stéphanie d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un de très curieux, de déterminé. J'avais toujours cette volonté d'aller au bout des choses et ça n'a pas changé. Ce sont juste les activités qui ont changé, mais par contre, le caractère et la façon de me projeter dans le monde et d'aller de l'avant, c'est toujours la même chose.
Tu as passé une enfance à la campagne, enfin, vous étiez en ville, vous étiez...
C'était plutôt dans une petite cité dortoir à côté de Toulouse, donc un peu entre deux. Et donc c'est là que j'ai grandi. Je faisais beaucoup d'activités physiques en extérieur, surtout du roller, de la gymnastique, et j'aimais beaucoup courir. Par contre, j'ai évolué dans un univers éloigné du sport, que ce soit du sport de haut niveau, mais aussi du sport tout court. Donc je n'ai jamais fréquenté les clubs, par exemple, je ne connaissais pas leur existence, mais je faisais beaucoup de sport par moi-même, et en fait, je faisais du sport sans le savoir. C'est-à-dire que je passais mon temps à faire du roller, à améliorer mes figures. Je pouvais passer 5 heures, 6 heures par jour sur cette activité sans savoir qu'en fait, je faisais beaucoup, beaucoup de sport.
Peut-être juste donc là, tu passes ta jeunesse à faire du sport par toi-même. Tu es bonne à l'école, tu montes à Paris, tu fais la philo, du droit, de l'économie et puis après, tu rentres à HEC.
Alors, j'intègre HEC après une classe prépa. Et en parallèle à HEC, je fais du droit, je fais de l'économie, donc j'ai prolongé l'économie après mon diplôme d'HEC à l'École d'économie de Paris, et je fais également de la philosophie en parallèle.
Tu sais ce que tu voulais faire après ?
Non, je ne savais pas précisément ce que je voulais faire. Quand je suis arrivée à HEC, j'avais énormément de codes à intégrer et je ne savais pas quels étaient les métiers que l'on pouvait exercer précisément quand on intègre HEC. Maintenant, ce que je savais, c'est que je voulais acquérir des outils pour entreprendre. Alors, j'utilisais pas forcément ce terme d'entrepreneur à cette époque-là, quand j'avais 18-20 ans, mais maintenant, je sais évidemment que c'est bien une question d'entrepreneuriat. Ce que je voulais, c'est avant tout avoir le maximum de connaissances pour ensuite pouvoir devenir autonome. Et j'ai découvert le droit, le monde des affaires, la finance, quand j'étais à HEC. Et ça m'a beaucoup plu, et c'est là que j'ai pris conscience, j'en avais pris conscience un peu avant, mais c'était encore plus fort quand j'ai intégré HEC. J'ai pris conscience qu'au-delà d'un monde géographique, tel que je l'imaginais quand j'étais jeune, il y a aussi un monde économique, un monde juridique, il y a tout ce que l'homme a construit. Et c'était pour moi aussi fascinant que découvrir la planète.
Donc après toutes ces études, tu as passé le barreau ?
J'ai passé le barreau, voilà, et je suis restée dans la profession en cabinet d'avocat. Plusieurs cabinets français, anglo-saxons, américains, et les cabinets ne sont pas très très connus du grand public.
Et donc la spécialité, c'est du M&A ?
Alors non, j'ai commencé par la fiscalité, ensuite j'ai fait de la fusion-acquisition effectivement, et puis du private equity. J'ai beaucoup changé, enfin, je préférais faire différentes disciplines puisque mon objectif c'était de mieux connaître le monde économique et de mieux comprendre ce dont nous parlaient les enseignants à l'école, hein, parce que ça reste quand même très théorique quand on est à HEC. Et moi, j'avais vraiment envie de comprendre comment fonctionne une opération de fusion-acquisition. Et ça, après plusieurs années, je l'ai compris et j'ai eu une meilleure appréhension de tout cet univers-là.
Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de quitter la robe ?
Mon objectif, ça a été de voyager. J'ai commencé à voyager quand j'étais en école, à faire des road trips, d'abord avec des moyens motorisés. Puis peu à peu, j'ai laissé de côté les moyens motorisés qui ne permettaient pas d'aller explorer certains lieux. Donc j'ai utilisé les moyens motorisés, puis après je les ai laissés petit à petit pour marcher, pour courir. C'est là d'ailleurs que j'ai pris conscience que j'aimais énormément la course sur ultra-distance. Et ça répondait aussi à un intérêt qui est né durant mon parcours, hein, de savoir ce qu'était le monde économique. Et comme je l'écris beaucoup dans mes ouvrages, en fait, ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que j'avais des envies très grandes depuis toute petite et le voyage a été une très grande envie. Ouais. Et puis en allant vers ce rêve, vers ce que j'appelle la motivation sincère, je me suis rendu compte que d'autres univers pouvaient me plaire et j'y ai consacré plusieurs années. C'est ce qui s'est passé avec le sport de haut niveau. Jamais je n'aurais imaginé quand j'étais jeune aller un jour vers le sport de haut niveau. Mais en faisant du sport aventure, en courant beaucoup à travers les déserts, je me suis rendu compte que j'aimais énormément l'ultra-endurance et donc j'ai commencé la compétition et puis ensuite le sport de haut niveau.
Je ne parle pas de l'ultra-endurance, mais souvent le sport c'est réservé aux jeunes générations. Et à 25 ou 30 ans, on est à la retraite. Ce n'est pas le cas dans ta discipline ?
Alors, ce n'est pas le cas dans ma discipline et ce n'est pas le cas dans l'athlétisme en général, hormis certaines disciplines telles que le sprint. En demi-fond, en cross, en fond, les athlètes qui s'entraînent actuellement à Font-Romeu avec moi et qui sont en équipe de France de marathon, de semi-marathon, de cross, ont pour certaines d'entre elles 40, 42 ans, donc sont même plus âgées que moi. Donc l'ultra fond, c'est sûr que c'est une discipline que l'on pratique à un âge un peu plus avancé. En général, on performe plutôt bien à 40-45 ans, même plutôt 45 que 40 d'ailleurs.
On performe mieux à 40 ans qu'à 30 ans.
En ultra fond, oui, ça c'est sûr. Parce qu'il est plus question d'endurance que de puissance. Donc c'est plus une question d'expérience. Il faut de nombreuses années avant d'être capable de courir plus de 200 km non-stop. Là aujourd'hui, lors des derniers championnats du monde, j'ai couru 240,6 km en 24 heures. Avant de pouvoir faire cette performance, il m'a fallu plusieurs années. C'est-à-dire que même si vous consacriez une année entière au sport de haut niveau, exclusivement au sport de haut niveau, sans jamais en avoir fait auparavant, on ne pourrait pas réaliser une telle performance parce que c'est vraiment la succession des années, la succession de toutes ces pratiques qui permet un jour de réaliser cette performance. Sur des distances plus courtes, un junior, un espoir, peut aller beaucoup plus vite. Mais en ultra-fond, il y a des étapes qu'on ne peut pas griller. C'est physiologiquement impossible. C'est pourquoi les personnes sont en général un peu plus âgées.
Ok, très clair. On peut parler un peu des défis sportifs dans les pôles. Tu as participé à des grandes compétitions sportives et des défis extrêmes. Comment ça a démarré? C'est quoi ton premier challenge?
Alors, ça a démarré par des expéditions relativement courtes de 2-3 semaines au Groenland et au Svalbard, notamment. Je suis allée pour la première fois au Svalbard. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé cette région vraiment très, très belle.
C'est où le Svalbard?
C'est en Norvège.
Norvège.
Voilà. Il faut savoir que avant d'aller au Svalbard, avant d'aller au Groenland, j'avais déjà parcouru des déserts et je m'étais rendu compte que les déserts m'attiraient énormément. Je ne savais pas à cette époque-là que je serais encore plus attirée par les déserts froids. J'ai tenté une première expérience et là, je me suis rendu compte que cela m'attirait encore plus.
En quelle année?
Et ça, c'était juste après HEC, donc en 2006-2007. Et en fait, la question que je me pose aujourd'hui et qu'on se pose avec les chercheurs avec qui je travaille, puisque je participe régulièrement à des protocoles de recherche sur l'acclimatation du corps aux conditions environnementales. C'est d'ailleurs très, très intéressant dans un contexte aujourd'hui de réchauffement climatique, hein, savoir comment les corps peuvent s'acclimater, notamment aux conditions très chaudes. Donc on fait aussi ce type de travail pour les conditions froides et on a remarqué que ma température centrale diminuait beaucoup moins que d'autres athlètes lorsque mon corps est plongé à, par exemple, moins 120 degrés pendant 3 minutes. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que mon corps se souvient de toutes ces expériences polaires, parce que depuis, j'en ai fait quelques-unes. Ou est-ce que j'avais une prédisposition qui fait que je suis allée vers le froid? On n'a pas de réponse encore, on est en pleine recherche sur ces sujets, mais en tout cas, on s'est rendu compte que mon corps avait une forme de mémoire du grand froid, ou alors il a peut-être quelque chose en lui qu'il avait déjà bien avant que je fasse ces expéditions.
En 2014, j'ai lu que tu avais réalisé la traversée à ski de l'Antarctique, 74 jours par moins 50 degrés. C'est quoi ton quotidien pendant 74 jours?
C'est principalement la marche. Alors, sur cette expédition, j'ai marché de 8 heures à 16 heures par jour. 8 heures en début d'expédition, 12 à 16 heures en fin d'expédition, parce qu'il faut terminer dans les délais, parce qu'ensuite les conditions météo sont trop hostiles pour qu'un avion puisse se poser sur le continent et venir vous récupérer. Donc il y a un délai limité, donc il faut se presser en fin d'expédition. Et c'est surtout de la marche. Alors je dis de la marche, c'est en fait on est sur des skis de randonnée nordique, on a des pots de phoque sous les skis et on marche en classique en tractant un traîneau. En général on marche une heure, on s'arrête 10 minutes pour boire et manger et puis on repart. Alors les pauses elles sont de 10 minutes en début d'expédition, 7 minutes en fin d'expédition quand le temps est un peu plus court. Et en fin de journée on monte une tente et là on recharge les batteries avec les panneaux solaires, on fait fondre la glace, on prodigue tous les soins dont le corps a besoin pour pouvoir repartir.
Parle de ton corps là, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu as eu comme symptômes ou comme...
Sur cette expédition, j'ai commencé l'expédition en étant malade parce que j'avais attrapé un virus au Chili. J'ai eu des gelures de stade 1. J'ai eu aussi une rage de dents qui a duré plus d'un mois, une dent qui s'est cassée en mangeant un aliment froid. Alors, il faut savoir que c'est très fréquent dans les expéditions.
Tu as une pharmacie dans ton traîneau?
Ah oui, tu as une pharmacie qui est assez conséquente. D'ailleurs, certaines crèmes, notamment pour les gélures, qui ne sont plus autorisées sur le marché. Donc, ça a été assez compliqué de créer cette trousse. Mais j'ai été aidée par Emmanuel Cauchy, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. C'était un médecin très réputé à l'Institut Yves Fremont à Chamonix, le grand spécialiste des gélures en France.
J'ai deux questions. C'est quoi le plaisir que tu prends dans cette aventure avec les difficultés physiques que tu as rencontrées? Et puis, deuxième question qui est peut-être d'ailleurs liée avec cette première question, c'est qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a de la nature, des animaux? Est-ce qu'il fait beau? Combien de temps il y a de jours? Est-ce que tu marches la nuit? Enfin, qu'est-ce que tu as vécu en tant que, on va dire, touriste du pôle Nord?
Alors, c'est les deux questions ont beaucoup de liens, évidemment. Quand j'étais en Antarctique, donc au cœur de l'Antarctique, après avoir parcouru, je crois que c'était 500, 600 kilomètres, avoir affronté ce virus en début d'expédition, puis aussi des vagues de glace. Alors, des vagues de glace, elles sont formées par le vent. C'est très différent des crêtes de compression qu'on trouve au nord. Ce sont des vagues qui sont sur la calotte glaciaire, qui sont tranchantes comme des lames de rasoir et qui peuvent faire 50 cm ou bien 1 mètre de hauteur. On appelle ça des sastrugi. Et c'est assez compliqué à franchir parce qu'on est en équilibre sur ces sastrugi. Là, en général, on perd vraiment beaucoup de temps. Et ça, c'est ce que j'ai connu sur 400 km au début. Donc ça a été assez, assez compliqué. Et après, la température a chuté drastiquement. Elle n'était plus de moins 20, moins 25, moins 35 degrés. Elle a été de moins 50 degrés. Donc là, on connaît une situation vraiment de survie. À moins 50 degrés, on ne peut pas s'adapter à ce type de température. Vous avez peur d'avoir des gelures graves parce que vous avez peur d'être en hypothermie. Donc il ne faut surtout pas s'arrêter. Les pauses, au lieu d'être de 10 minutes, elles sont de 3 minutes parce qu'on ne peut pas rester sédentaire plus de 3 minutes. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le temps nécessairement de ranger son traîneau, alors que son traîneau, on le range de manière minutieuse. On n'a pas nécessairement le temps de refermer sa veste après s'être alimenté. Il faut repartir tout de suite. Et ça, parfois, on est affaibli. Mais malgré tout, il faut marcher vite.
Ton état d'esprit, c'est quoi ? Est-ce que tu as peur de mourir ? Tu as peur de rester là ? Tu peux communiquer avec tes proches ? Comment t'es ?
Non, là, j'ai peur. Là, à ce moment-là, j'ai peur, oui, parce que la peur, c'est la peur de la mort. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au fur et à mesure de mes expériences, c'est que le vrai sentiment de peur, on l'a quand on pense que l'on va mourir. Ça, je l'ai vécu lors d'accidents. Je pense notamment à un accident au Groenland il y a quelques années. Et je l'ai vécu à travers l'Antarctique pendant ces 10 jours. Parce que là, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. La température, elle évolue très vite en Antarctique. Donc, je me posais la question de savoir s'il allait faire moins 60, moins 70 degrés.
Ça peut descendre à combien ?
Alors, la température en hiver, elle peut être de moins 90 degrés en Antarctique. Maintenant, durant l'été austral, en général, on ne dépasse pas les moins 50, moins 60 degrés. Maintenant, il peut toujours y avoir une exception, c'est-à-dire qu'on limite les risques. Maintenant, on sait quand on part sur ce type de projet qu'il y a des crevasses extrêmement profondes dont on ne peut pas sortir. On sait qu'il peut y avoir des vents catabatiques à 300 km/h. On ne peut pas survivre et on sait aussi qu'il peut faire extrêmement froid et qu'on ne peut pas survivre à une certaine température. On met en place tout ce qu'il faut mettre en place pour survivre. On n'est même plus dans le rationnel dans ces moments-là. C'est vraiment de la survie. Je crois bien que même une personne qui n'aurait pas du tout envie d'être au milieu de l'Antarctique, qui serait allée à contre-cœur, une telle personne qui vivrait ce que j'ai vécu à ce moment-là aurait fait exactement la même chose que moi, parce que c'est clairement instinctif. On a une forme d'énergie qui est décuplée dans ces moments-là. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, quand j'étais en Antarctique, j'étais en hypoglycémie. Je pesais 39 kilos en fin d'expédition. J'étais extrêmement affaiblie. Mais quand il a fait moins 50 degrés, mon corps a trouvé des ressources qui lui ont permis d'aller beaucoup plus vite, de marcher beaucoup plus vite qu'à n'importe quel autre moment de l'expédition.
À quel moment tu prends du plaisir ?
Alors justement, après, quand il a fait moins 35 degrés avec un vent qui n'était plus que de 20 km/h, là, c'est vraiment grandiose. L'Antarctique n'est absolument pas monotone. On me dit souvent l'Antarctique est monotone, c'est un désert. Non, l'Antarctique n'est pas monotone parce que les nuages ne sont jamais les mêmes. Dans la vie quotidienne, les nuages, on ne les regarde plus. Quand on est au cœur d'un désert, on regarde les nuages tous les jours. Les couleurs ne sont jamais les mêmes. J'ai vu l'Antarctique durant 74 jours. J'ai été immergée au cœur de l'Antarctique, il n'y a pas une seule journée qui a ressemblé à une autre, ne serait-ce qu'en termes de lumière, de luminosité. Les vagues de glace sont toujours différentes. Ce sont des sculptures. J'ai quand même pu prendre quelques photos, alors pas de toutes. Hein. Moi, j'aurais bien aimé toutes les immortaliser tellement elles étaient magnifiques.
Est-ce que tu as des photos quelque part qu'on peut retrouver ? Peut-être sur un blog ou un endroit où on peut retrouver tes photos de vagues de glace ?
Oui, j'ai un site internet, stéphaniegiquel.com. Alors, il n'est pas à jour complètement, mais par contre, on peut y trouver des images d'Antarctique. Je poste régulièrement des photos aussi sur LinkedIn et puis des écrits sur mes sensations par rapport à ce que j'ai pu vivre durant cette expédition ou d'autres.
Tu communiquais à quelle fréquence avec l'équipe qui te suivait ?
Alors, tous les jours, l'objectif, c'était de communiquer les coordonnées GPS du dernier campement. Et là, j'avais signé un contrat avec une base scientifique qui m'a servi aussi de support logistique.
Qui s'appelle comment ?
Adventure Network International, donc qui s'occupe du camp de base d'Union Glacier. Et cette base m'avait fait signer un contrat dans lequel il était stipulé que s'il n'y avait plus aucune nouvelle sous 48 heures, ils envoyaient un bimoteur sur le dernier point communiqué. Donc j'avais l'obligation tous les soirs d'avoir quelqu'un au téléphone par téléphone satellite. Après, je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille pendant 3 mois. Parce que quand on part sur ce type de projet engagé, si vous avez des nouvelles, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, cela peut vous extraire de votre obligation de concentration durant un tel projet. C'est quelque chose qui peut vous conduire à ne pas vouloir survivre, à ne plus vouloir avancer.
Tu as un coach mental, j'imagine. C'est quelqu'un avec qui tu parles régulièrement?
Il y a des axes sur lesquels aujourd'hui je parviens à gérer seul et puis aussi avec les personnes de mon entourage qui m'accompagnent. Hein. J'ai un conjoint aussi qui est très impliqué dans les projets et donc on travaille aussi beaucoup ensemble l'aspect mental. Et puis il y a des aspects sur lesquels peut-être je ferai appel à un préparateur mental, mais encore faut-il bien déterminer et contourner la question, je pense, pour que ce soit efficace.
Ton conjoint, il est, tu l'as rencontré sur les bancs de l'école ?
Oui, je l'ai rencontré à l'école, effectivement. Il a à peu près le même parcours que le mien. Aujourd'hui, il n'est pas sportif de haut niveau puisqu'il n'a pas eu le souhait de s'orienter vers cette carrière, même s'il en aurait eu vraiment le potentiel. Enfin, il est très, très bon en activité physique. Mais par contre, il aime beaucoup me suivre sur les compétitions, sur les entraînements. Il travaille pas mal la stratégie de course, la stratégie de ravitaillement. Il prépare les courses autant que moi. Il a souvent bien, même beaucoup plus d'informations que moi sur les courses et puis moi je cours.
Ok. Il y a un mois, on a reçu dans un épisode du podcast Lydie Lescarmontier. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une glaciologue.
Oui.
Elle nous racontait un peu les pôles, mais aussi sa perception de l'évolution des paysages avec le réchauffement climatique. Est-ce que c'est quelque chose qui, au cours de ta carrière d'exploratrice et de sportive de l'extrême, tu as pu voir?
Alors, je l'ai vu surtout en Arctique, c'est-à-dire qu'en Arctique, c'est très flagrant le recul des glaciers quand on compare les photos d'aujourd'hui à des photos passées, alors soit des photos que j'ai pu prendre, soit des photos que l'on m'a montrées, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'il y a un recul des glaciers. Après, on constate aussi sur les images satellites que la glace est beaucoup moins épaisse d'une année sur l'autre. Après, il faut savoir que c'est une tendance générale. Certains étés, le passage du nord-ouest ou le passage du nord-est sont complètement bloqués par les glaces, alors que d'autres étés ne le sont pas du tout. Donc c'est une tendance générale, mais il peut y avoir certaines années quelques exceptions, donc plus de glace que d'habitude. Au nord, c'est très visible. Par contre, au sud, faut savoir qu'en Antarctique, on est vraiment au début des recherches en matière climatique. Il reste peut-être 90% du continent à découvrir. C'est une très grosse calotte glaciaire qui recouvre le continent. Donc déjà, les forages prennent beaucoup de temps et c'est assez onéreux. On parle du décrochage de certaines barrières de glace. Les barrières de glace, elles se trouvent autour du continent antarctique. Elles reposent sur l'océan qui entoure le continent antarctique et elles sont accrochées à la calotte glaciaire. Donc, en gros, c'est la calotte glaciaire qui repose sur l'océan. Parfois, ce sont des barrières qui sont immenses, hein, grandes comme des départements français. Donc, c'est assez conséquent. Est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? Est-ce que c'est lié à la lourdeur de ces barrières, au fait que le socle de la calotte glaciaire repose en dessous du niveau de l'océan et donc il y a une forme de poids qui fait que ces barrières se décrochent? Il y a encore beaucoup d'interrogations. On a aussi beaucoup d'interrogations sur la banquise qui entoure le continent antarctique, son épaisseur, l'évolution de son épaisseur. Et là, il y a une expédition qui devrait se monter, qui est menée par Jean-Louis Etienne et qui aura pour objectif d'étudier le contour du continent antarctique et notamment cette banquise. Par contre, ce qu'on voit, et ça pour le coup, on le ressent de manière très très forte évidemment, c'est que quand on rentre de ce type d'expédition, on est gêné très considérablement par la pollution ambiante, et ça pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que la pollution au quotidien, on ne la ressent plus malheureusement. On vit dans la pollution, mais nos capteurs, notre odorat, notre sensation ne se rend plus compte de cette pollution. Par contre, quand on revient de ces déserts qui sont un peu plus préservés, là, on est vraiment impacté. Je pensais que jamais je ne retrouverais mes sensations d'avant, tellement c'était très fort. Et ça vous marque. Hein. Quand vous rentrez, c'est pas du tout anodin, c'est quelque chose qui marque vraiment, parce que là, on prend conscience qu'on vit au cœur d'un nid de pollution. C'est très perturbant.
Est-ce que le fait d'aller explorer des glaciers qui sont préservés de toute activité humaine, comment est-ce que tu fais pour ne pas polluer? Tu peux garder tes déchets? Enfin, comment tu es obligé de les laisser sur place? Comment ça se passe?
Les déchets, on les garde dans sa poulka, dans son traîneau. Il est absolument hors de question, et je crois qu'aucun explorateur en Antarctique n'oserait le faire. Personne ne laisse ses déchets sur place, parce qu'on signe un contrat avec les bases scientifiques qui nous servent de support logistique. Et dans ces contrats, il est indiqué qu'on ne laisse aucun déchet. Et on ne laisse même pas autour du pôle sud ces déchets humains. C'est-à-dire que tout ce qui est déchets humains, y compris les urines, etc., on les transporte sur soi. On les transporte dans sa poulka. Et ça, c'est vraiment un engagement. De toute façon, on vous demande des déchets quand vous terminez l'expédition. Donc aucun explorateur ne laisserait des déchets. Donc après, voilà, toutes les expéditions sont différentes. L'Antarctique, c'est, je pense, loin d'être l'Everest, dans le sens où il y a quand même très peu de personnes qui réalisent des expéditions là-bas. Il faut des autorisations qu'on met plusieurs mois à obtenir. Donc on n'est pas sur du tourisme quand on est en plein cœur de l'Antarctique. On ne croise pas d'autres personnes ou expéditions. Et ça sur plusieurs semaines. Donc, on est quand même très, très loin de l'Everest, et je ne pense pas qu'on soit amené à...
Ce n'est pas le début du tourisme de masse.
Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Antarctique puisse avoir le même destin. Je ne pense pas.
Tu as fondé une association pour sensibiliser les élèves au paysage des pôles. Comment elle s'appelle, cette association?
Alors, c'est Runners to the Pole. C'est un nom que j'avais donné par référence à la course à pied aussi. Et j'ai pour objectif de montrer des images aux jeunes dans les écoles, dans les associations aussi, dans les organisations, sur l'Antarctique, sur l'Arctique, de manière à ce qu'ils appréhendent un peu mieux ces espaces qui méritent d'être un peu plus connus, je pense. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager, et l'objectif, c'est de permettre aux enfants de leur faire connaître ces régions.
J'ai lu aussi que tu soutenais d'autres associations pour les femmes, pour les enfants malades.
Oui, je suis marraine de Femmes des Territoires. C'est un réseau de femmes porteuses de projets, entrepreneurs, des femmes qui ne se rencontrent pas beaucoup en temps normal. Et c'est pourquoi Marie-Éloi a souhaité fonder cette association. L'objectif de l'association, c'est de faire en sorte que les femmes porteuses de projets puissent se rencontrer, de manière à ce que leur projet avance un peu plus rapidement. Parce qu'on sait tous que quand on reste isolé, on a moins accès à l'information. J'accorde beaucoup d'importance au collectif, mais aussi à l'échange, au partage d'informations avec des personnes qui ont pu vivre des expériences à peu près semblables et qui vont pouvoir vous expliquer quel a été leur parcours, leur cheminement. Donc ça peut permettre à des femmes porteuses de projets de trouver des financements un peu plus rapidement, ou bien de créer des business plans, et donc de faire en sorte que leur projet avance un peu plus vite. Donc ça, c'est Femmes des Territoires. Après, je suis aussi engagée pour l'association Petit Prince. Donc, lors de chacune de mes expéditions ou projets de compétition, je lève des fonds pour l'association Petit Prince. Quand je me rends dans les écoles également pour parler d'environnement, je lève des fonds pour l'association Petit Prince, où l'école donne ensuite des fonds à l'association.
Tu peux nous dire ce que fait Petit Prince?
Alors, l'association Petit Prince, elle réalise les rêves d'enfants malades. Elle a été créée par Dominique Bayle. Elle suit des enfants sur la durée, donc des traitements et de la maladie. Elle peut réaliser 1, 2, 3 rêves par enfant. Donc, les rêves, ils sont aussi nombreux que les enfants qui ont pu être soutenus. Hein. Ça peut être rencontrer un sportif ou bien assister à un spectacle, aller à Disneyland. Enfin, les rêves sont très nombreux. J'ai d'autres engagements aussi auprès de Gamers, une association pour la décarbonation du sport professionnel. Donc, je suis marraine de l'association et on va définir dans les prochains jours les projets pour 2022. Je suis aussi marraine de Assist Sport Academy, qui est une association pour la reconversion des sportifs de haut niveau. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, j'ai d'autres engagements aussi pour l'éducation. Je pense notamment à l'école résiliente, un projet d'école qui a pour objectif de faire en sorte que les petits-enfants deviennent de véritables aventuriers et gagnent en autonomie, en indépendance et puissent vivre de leurs rêves. J'avais des rêves quand j'étais petite et j'ai tout fait pour pouvoir les réaliser. Donc, je pense qu'on a tous cette capacité à aller vers nos rêves. Et donc, c'est un projet qui me tient aussi très fortement à cœur.
Sur mon bureau, j'ai ton dernier livre qui s'appelle En mouvement, qui est sorti l'année dernière. Au-delà d'être exploratrice, sportive, de haut niveau, engagée, qu'est-ce qui fait que tu es écrivaine confirmée ?
Alors, j'aime beaucoup écrire. C'est-à-dire qu'au début, l'écriture, c'était un moyen de raconter les expéditions parce que j'avais conscience que j'étais allée dans des lieux qui sont très peu explorés. Et donc, je sentais qu'il était nécessaire d'en parler. Et puis, je me suis rendu compte qu'en écrivant, j'allais un petit peu plus loin. C'est-à-dire que le changement, j'ai beaucoup changé dans mon parcours. Le changement m'a apporté énormément. Et je me suis rendu compte que quand on prend le temps de réfléchir aux expériences vécues, on fait un pas de plus encore. C'est-à-dire qu'on bénéficie de ces expériences encore plus fortement parce qu'on essaye de réfléchir sur ce qui nous a motivés à agir de telle ou telle manière, sur ce qui a fait que malgré le grand froid, malgré l'inconfort, malgré les entraînements de 6 heures à l'INSEP ou en chambre froide, malgré tout cela, pourquoi j'ai continué, pourquoi j'ai persévéré, on réfléchit à toutes ces questions et donc on va encore plus loin, que ce soit en termes de connaissances ou bien en termes de maturité. Et ça, j'aime beaucoup, en fait. Donc aujourd'hui, l'écriture, c'est pour moi une activité à part entière et j'ai des projets d'écriture qui seront complètement décorrélés d'une aventure parce que j'aime écrire.
J'ai lu dans un portrait du Figaro d'il y a quelques temps que tu avais eu une âme d'entrepreneur et que tu te projetais dans une aventure entrepreneuriale. Est-ce que ça a avancé ? Est-ce que c'est en...
Pourquoi pas ? En fait, j'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de projets et certains, je les mets dans un coin de la tête. J'ai d'autres projets d'expédition que je mets dans un coin de la tête en ce moment parce que je suis plutôt concentrée sur le sport de haut niveau. J'ai tout plein de projets de livres. On m'a encore contacté récemment pour de nouveaux projets. Et j'ai aussi, ces projets d'entrepreneuriat ou de start-up. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi dans toutes ces activités que j'ai menées que ce que j'aime aussi, c'est la gestion de projets. Parce que ce qui m'avait plu à travers l'Antarctique, ce que j'ai aimé aussi, c'est gérer le projet de A à Z, c'est-à-dire convaincre, créer un collectif autour du projet, mais également lever des fonds, partir sur un projet qui est complètement fou. On vous dit que c'est impossible, mais vous y croyez, vous continuez, travailler parfois jusqu'à 3 heures du matin, me lever en n'ayant qu'une envie, c'est prolonger l'effort parce que j'y crois fortement. Ça, c'est quelque chose qui est... que vivent les entrepreneurs et pour être marraine de réseau d'entrepreneurs mais aussi pour être intervenue régulièrement devant ces réseaux, que ce soit l'Institut du Mentorat Entrepreneurial, le Salon des Entrepreneurs et Franchise Expo ou autre, les ressources qu'on met en œuvre dans nos activités sont vraiment similaires et donc je pense qu'un aventurier, je pense qu'il est déjà un entrepreneur, mais pourquoi pas aller vers une aventure de start-up, ça pourrait être sympa, oui.
On est le 19 janvier 2022. C'est quoi tes bonnes résolutions ou tes projets top secret que tu as dans un coin de ta tête pour l'année?
Alors, j'ai beaucoup de projets. Bon, j'ai des projets personnels, mais j'ai des projets aussi dans ma carrière. Je prépare actuellement les championnats d'Europe d'ultra-fond avec l'équipe de France d'athlétisme. Les championnats du monde aussi avec l'équipe de France d'athlétisme dans la discipline du 100 km. Donc là, on est sur une discipline de grand fond, une distance un peu plus courte. Et là, c'est au mois d'août 2022. Donc, ce sont mes deux gros projets. Puis ensuite, j'ai d'autres projets que je vais mettre en œuvre, des projets éditoriaux et puis d'autres projets aussi d'intervention dans le domaine de l'événementiel également. Pas mal de missions qui sont déjà bookées.
2022, c'est aussi une année d'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a un message que tu veux passer aux candidats?
Alors pour moi, ce qui est vraiment important, au même titre que le réchauffement climatique, je crois qu'il y a un enjeu absolument majeur pour nos sociétés modernes qu'il ne faut jamais oublier, je pense. C'est l'importance de l'activité physique, l'importance du corps, l'importance du mouvement. Donc faire en sorte qu'aucune mesure, dans quelque domaine qu'il soit, ne vienne entraver cette liberté de mouvement physique. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on doit prendre à cœur au même titre que le réchauffement climatique ou d'autres sujets qui nous occupent actuellement, l'égalité homme-femme, etc. Il ne faut absolument pas oublier l'activité physique dès le plus jeune âge. On améliore l'espérance de vie. Mais pour vivre en moins bonne santé, ce serait quand même dommage. Donc, je pense que l'activité physique, c'est vraiment un sujet qui doit être au cœur de nos actions à l'avenir.
Écoute, Stéphanie, merci beaucoup pour l'échange que j'ai trouvé à la fois passionnant, enrichissant, étonnant. J'ai senti une volonté de faire. Je ne sais pas comment est-ce que finalement tes proches te caractérisent, mais... J'ai l'impression que le mot résilience, c'est un mot qui te va bien. Je te dis bonne route et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.